On peut se lever ensemble, s'il vous plaît, pour la lecture. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour toute l'espoir, l'espérance que nous avons à toi, Seigneur. Merci pour les promesses de ta parole qui sont oui, amen. Merci, Seigneur, que cette parole, c'est l'expression de ton cœur, l'expression de qui tu es. Et que, Seigneur, tu as tout donné pour ton peuple, tout donné pour ton Église. Merci, Seigneur, que tu es ici parmi nous aujourd'hui, Seigneur. On veut se réjouir de toi. On veut se réjouir de ton cœur. On veut se réjouir, Seigneur, de ton amour pour nous, Seigneur. Merci pour qui tu es, un Dieu d'amour, un Dieu qui se soucie de chacun de nous. N'importe les circonstances, n'importe qu'est-ce qu'on passe, chacun de nous, Seigneur, dans nos vies, que ce soit des petites choses, des grandes choses, tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu pour chacun de nous. Alors, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ô Seigneur, ouvre nos esprits à toi ce matin, Seigneur, qu'on puisse recevoir de ta merveilleuse parole dont nous avons tellement besoin dans nos vies. Bénis chaque personne ici, Seigneur. Bénis chaque personne qui ne peut pas être ici ce matin. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Avant de vous asseoir, tournez à quelqu'un pour dire amen! Amen! Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'on lit les Écritures, on n'en revient pas. Comment est-ce que les Écritures sont tellement inspirées que ça fait rien combien d'années qu'on est dans le Seigneur. On, on, on regarde l'Écriture avec un grand respect. Lorsqu'on lit et on réalise qu'on ne connaît pas grand-chose. On réalise comment est-ce que les profondeurs de Dieu sont inépuisables. Et comment est-ce que Dieu peut nous bénir davantage. Alors, il y a un verset que j'aimerais, qui est mon premier frame là, sur l'écran. Le verset clé, je peux vous dire, pour aujourd'hui. Et c'est concernant le verset 9. Et puis, quelque chose qui ne fonctionne pas, de où est Alain? Parce qu'elle est... OK, il y a un problème, là, je ne sais pas. Mais je vais vous lire le verset encore. Le verset 9 nous dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil, merci, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et que ne sont point montées au cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Et puis, le titre de mon message ce matin, c'est pas très positif, mais vous allez voir, ça va devenir positif, mais c'est « Crise cardiaque ». Mais on va regarder une autre sorte de crise ce matin. Et puis, alors ce verset clé nous parle des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, les choses que Dieu a pour nous. Non seulement parce qu'on parle souvent et on pense souvent de l'éternité quand on va aller au ciel, les choses que Dieu a préparées pour nous, mais maintenant. Pas juste en éternité, mais maintenant, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et concernant une crise cardiaque, si vous tombez dans une situation d'urgence, comme notre frère Pasteur Gagnon ce matin qui était parmi nous, qu'on devait l'emmener à l'hôpital, c'est par urgence, c'est malheureux. Mais lorsque vous avez certains symptômes d'une crise cardiaque, on vous demandera quels sont vos symptômes. Et alors ensuite, ils prendront, vous allez aller à l'hôpital, ils vont prendre votre pression, ils vont prendre votre pouls, ils vont prendre votre température, et ensuite, probablement, vous serez connecté à un moniteur cardiaque et vous allez subir des tests pour voir si vous avez réellement une crise cardiaque. J'espère pas comme ce gars-là. Est-ce que ce gars-là, ils ont fait des tests, puis malheureusement, il est mort. Il est mort dans le test, mais j'espère que ce sera pas comme ça. Mais merci Seigneur pour les tests. Parce que les tests peuvent nous aider et peuvent voir si on a un cœur malade, si on a besoin de soins, si on a besoin de médicaments, mais ensuite, les tests sont là. Sont là pour ça. Mais il y a un témoignage d'une femme, j'aimerais vous lire son témoignage, le 26 mai 2019. Gisela Jones, elle s'appelle, partage son témoignage de sa guérison d'une crise cardiaque. Elle dit ceci, « Ça fait 18 ans depuis que j'ai été guérie de mon attaque cardiaque. J'avais une grande difficulté de respirer et ma poitrine a aussi commencé à me faire mal. J'avais des plans pour ce jour-là d'aller à Woodstock, Ontario, pour ma conférence, la conférence pour les dames. Lorsque j'ai dit à mon mari que j'avais des douleurs à la poitrine, il m'a dit, oublie la conférence, je t'amène à l'hôpital. Immédiatement après avoir arrivé, ils m'ont amené dans une salle où il y avait toutes sortes d'équipements diagnostiques. Ma pression était élevée à plus de 200 et j'avais du trouble à m'exprimer à cause de ma respiration et ma douleur. Autres tests ont suivi et je me souviendrai toujours du docteur qui m'a dit, « Madame, vous êtes en train d'avoir une crise cardiaque. » J'ai demandé à mon mari, à ce moment-là, Jim, d'appeler mes amis les dames à Woodstock afin qu'elles puissent prier pour moi. Plusieurs heures plus tard, le docteur revient me voir. Il me dit, avec un grand sourire sur ses lèvres, dit « Madame, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais votre cœur est parfaitement en santé et vous êtes libre à rentrer chez vous. » Mais peut-être le docteur ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais nous autres, on sait qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a eu la prière et le cœur nous dit « Jésus exauce la prière et qu'il entend tous nos cris. Il connaît notre misère. » Que son Saint-Nom soit béni. Jésus exauce la prière. Et alors, elle continue son histoire et elle dit, « Tous les symptômes et mes douleurs ont disparu. J'ai descendu à l'entrée principale de l'hôpital pour attendre pour mon mari Jim. Il avait été à la maison pour préparer ma valise et des nécessités pour rester à l'hôpital. En me voyant, il était dans un choc, me voir en bas attendre à l'entrée ou la sortie de l'hôpital. Et il me dit avec grande surprise, « Est-ce que tu es en train de te sauver de l'hôpital? » J'ai dit, « Non, 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 je suis guéri. Je suis guéri. Les dames de Woodstock ont prié pour moi et je suis guéri. » Elle dit, « Cette expérience m'a convaincu de l'importance de la prière d'intercession. » Et elle a dit, concernant ce verset, Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. L'importance de prier les uns pour les autres. L'importance de prier pour le pasteur Gagnon. L'importance de prier pour vous ici ce matin, les uns les autres. L'importance de faire ça parce que Dieu exauce la prière. Et alors, on doit prier. Eh bien, c'est bon d'avoir des tests pour vérifier l'état de nos cœurs. Mais il y a aussi une autre sorte de test pour le cœur spirituel. La Bible parle que le cœur est le centre spirituel de qui nous sommes. La personne que nous sommes, ça se trouve dans notre cœur. Jérémie 17, 9 nous instruit que nous sommes nés avec un besoin pour un cœur nouveau. Nous avons besoin d'un cœur nouveau. Et la Bible nous dit ici par Jérémie, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Une femme donne un témoignage un dimanche soir à son église. Et elle se lève debout, puis elle dit, « Oh, c'est terrible! » Elle dit, « Nous vivons dans des jours de méchanceté aujourd'hui, c'est horrible! » Et puis elle dit, « J'ai eu une bagarre avec le vieux diable toute la semaine! » Puis son mari a dit, « C'est pas toute ma faute! » Elle aussi, elle est difficile à vivre avec. Elle ne parle pas de son mari, vraiment, mais lui, il a pris ça comme ça. Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous offre un cœur nouveau. Alléluia! Dieu nous offre un cœur nouveau. Il nous dit encore par la bouche de Jérémie, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Quelle merveilleuse nouvelle pour vous et moi que Dieu fait. Il nous donne un cœur nouveau. Eh bien, en vue de tout cela, nous avons besoin d'un test spirituel de notre cœur. Parce que notre cœur a le penchant vers le péché, vers un cœur méchant. Nous avons besoin de savoir l'état de santé de notre cœur et voir si ça marche comme il faut. De voir si notre cœur spirituel, si nous marchons selon l'esprit ou si nous marchons selon la chair. Et il y a des tests qu'on peut faire. Est-ce que mon cœur est malade? Est-ce que mon cœur est en bonne santé? Est-ce que tout va bien dans mon âme? Puis-je bien respirer dans le Seigneur? Vu que Jérémie nous dit que notre cœur est tortueux par-dessus tout, et que le cœur de l'homme est méchant, et qui peut le connaître? C'est important de prendre certains examens, des tests spirituels. J'en ai trois pour vous ce matin. Et le premier test qu'on devrait faire, c'est le test de la langue. Le test de la langue. Ce test va nous aider à diagnostiquer où est le focus de notre cœur. Quelle est l'importance de notre vie? À propos de la langue, Jésus lui-même a dit ceci. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Ça ne fonctionne pas. Peux-tu changer pour moi, s'il vous plaît? Parce que je pense à de la... Ah, il vient. OK. Fonctionne pas. Juste à le changer toi-même au prochain frame, s'il vous plaît. Fonctionne pas. Il est gelé. OK. Ben, je peux citer ce que Jésus nous dit, l'importance. Merci. C'est pas celle-là, mais... Matthieu 12, 34, Jésus a dit à propos de notre langue, à propos de notre bouche, il dit, car c'est de l'abondance du cœur. Merci. Merci. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur que la bouche parle. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. Nous autres, je sais qu'il y a un de nos fils, je ne dirais pas lequel, je pense que c'était Paul. Qu'on y a fait manger du savon un jour. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Jésus a dit. Le test regarde à ce qui sort de la bouche lorsque nous sommes sous une certaine pression ou lorsque il y a une urgence dans nos vies ou un changement qu'on n'aime pas ou un moment le plus intense de notre vie. Et puis, là, ça sort de notre bouche. Je m'en souviendrai toujours, un monsieur âgé que j'avais été visiter à l'hôpital. Et puis, d'un monsieur qui venait à l'église de temps en temps, sa femme était fidèlement là tout le temps, mais lui venait de temps en temps, puis il y a eu quelque chose, crise cardiaque, quelque chose, puis il ne pouvait pas parler. Il avait de la misère à bouger. Et puis, on était autour de son lit à l'hôpital. Et puis, à un moment donné, l'infirmière est venue, parce que ça faisait longtemps qu'il était couché là. Elle l'a tourné sur son côté pour frotter son dos, puis elle a mis de l'huile. C'était pas froid, c'était frette. Puis elle a mis ça sur son dos. Puis soudainement, quand il a eu ça sur son dos, qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Je sais qu'il était catholique. Oh! Qu'est-ce qui est sorti de là? Puis sa femme, puis tous les autres chrétiens autour du lit, on était peut-être une douzaine de personnes, puis on dit, oh, il n'est pas comme ça, il dit jamais ça. Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche à ces moments-là? Oh, Seigneur, garde-nous à jamais faire ça! À jamais faire ça! Mais le test pose la question, quel est le sujet de notre conversation? Quel est le sujet de notre conversation la majorité du temps? De qu'est-ce qu'on parle? De qu'est-ce qui est dans notre esprit? Je veux dire, le fin fond de notre esprit. Qu'est-ce qu'il y a là dans le cœur? Et Jésus dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, ça part de nos pensées, n'est-ce pas? Ça part d'ici. Et la Bible nous dit, bel et bien nous dit, au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées, parce que ça va nous aider avec notre bouche. Si on est rempli de sa parole, si on est rempli de lui, qu'est-ce qui va sortir? C'est lui. Qu'est-ce qui va sortir? C'est les choses qui sont bien. Alors, il dit que ça soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est bien, tout ce qui est vérité, vrai, honorable. Le docteur Warren Wiersbe, qui est un docteur en théologie, dit ceci, « Semer une pensée, récolter une action. Semer une action, récolter une habitude. Semer une habitude, récolter un caractère. Semer un caractère, récolter un destin. » Ça commence tout avec notre pensée, nos pensées. Et qu'est-ce qu'un autre verset dans Proverbe qui nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Oui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a des gens qui ont tordu ce verset-là pour dire « Je vais confesser qu'est-ce que je veux dans ma vie. » Et puis, c'est ça qui va m'arriver, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire « Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de bénir ou maudire. Nous avons le pouvoir d'encourager ou décourager quelqu'un. Sourire ou faire une grimace. Supporter quelqu'un ou condamner, d'aimer ou d'haïr, de faire du bien ou de faire du mal, de réconforter ou de rejeter, de restaurer ou de détruire quelqu'un, édifier quelqu'un ou empoisonner quelqu'un avec nos paroles, affermir ou abuser, guider ou tromper. » J'ai arrêté là. Alors, il y a tellement de choses qui peuvent sortir de notre bouche, mais que Dieu nous aide à bâtir, à bénir, à encourager les uns les autres, spécialement ceux de la maison de Dieu, spécialement les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Alors, c'est notre bouche, c'est le premier test. Et Jésus dit, sonde ton cœur. Sonde ton cœur. D'ailleurs, David a dit, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Alors, on a besoin de regarder à l'intérieur, c'est le premier test, ça. Qu'est-ce qui sort de nous? Qu'est-ce qu'on pense dans notre esprit? Afin qu'on puisse remplir notre esprit de ce qui est bien, afin que qu'est-ce qui sort de notre bouche, ça va être pour bénir les uns les autres. C'est le premier test. Et je pense que nous devrions tous demander le Seigneur ce matin qu'il bénisse notre langue pour les autres, afin qu'on puisse bénir les autres. Qu'en pensez-vous? Amen. On devrait prier pour cela. Deuxième test. Le deuxième test, c'est le test de solitude ou d'être seul ou lorsque nous sommes seuls. Le psaume 149, verset 5, nous dit que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Intéressant ce verset. Pasteur John Piper a dit à propos de ce verset, il dit, ça dit quelque chose si tu chantes dans ton lit. Ça dit quelque chose si tu chantes dans ton lit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bien, en autre mot, lorsque je suis toute seule et lorsque personne me voit ou lorsque personne m'entend, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où est mon cœur durant ma solitude? Ce test demande la question, quelle est la dernière fois que j'ai parlé avec Dieu lorsque j'étais seule? Lorsque j'étais toute seule, est-ce que je parle à Dieu? Est-ce que je bénis Dieu? Est-ce que j'adore Dieu? Est-ce que je prends l'occasion pour me rapprocher de Dieu? Cela nous montre où se trouve notre cœur en relation avec le Seigneur lorsqu'on est seul. L'importance de pratiquer la présence de Christ lorsque nous sommes seuls. Le meilleur temps, c'est lorsque on conduit notre auto et on est tout seul. Hein? Ça, c'est un temps qu'on peut avoir avec le Seigneur qui est intime parce qu'on est seul. Excepté si vous arrêtez pour une lumière de trafic, puis il y a un autre char qui vient à côté de vous, puis il vous voit parler à vous-même. Pas grave. Pas grave. Vous parlez à Dieu. Et alors, c'est l'importance de encore sonder nos cœurs. Le troisième test, c'est le test d'un introspection. Une introspection, ça veut dire une introspection de soi-même. Une observation méthodique même, je dirais, de sa vie intérieure. Sonder encore une fois nos cœurs, c'est bon de regarder à l'intérieur du soi-même. Mais il ne faut pas prendre garde, il faut prendre garde que ce soit d'une bonne façon, une façon qui est de santé, non égoïste. Quelqu'un a dit, une introspection sans crucifixion amène la paralysie. Une introspection sans crucifixion amène la paralysie. Ça veut dire qu'on a besoin de venir avec la croix devant nous. On a besoin de venir avec un cœur qui est prêt à se plier à la loi de Dieu, à se plier à Jésus-Christ comme que c'est lui qui est en charge de notre vie. Il faut vouloir, en fait, mourir à soi-même. Je sais qu'on n'aime pas ça, mais mourir à soi-même afin que Christ vit en nous. Alors, c'est de regarder à l'intérieur. Introspection avec honnêteté. Nous voulons, premièrement, avoir un cœur qui médite sur sa parole. C'est un cœur qui médite sur Dieu. Lorsqu'on est seul, médite sur Dieu. Médite sur sa parole. Un cœur qui haït le péché. Un cœur qui haït le péché, pas le péché des autres. Notre péché, qui haït le péché, et un cœur qui anticipe sa venue. Ça, c'est une autre façon de voir. Anticiper la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Pasteur Gagnon, il est proche, peut-être plus proche, de voir le Seigneur face à face plus que vous ce matin, peut-être. Mais c'est un temps bénissant. C'est un temps de ce que, si on est prête, on anticipe la venue de Jésus-Christ et savoir que Jésus vient nous chercher, que ce soit par la mort ou que ce soit par l'enlèvement, pas de différence, il vient nous chercher. Ces tests peuvent nous aider à sonder nos cœurs et les rediriger vers le caractère principal de notre vie. Le caractère principal de notre vie, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Hein? Ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est Dieu. Le psaume 73, verset 26, nous aide à ne pas se décourager avec nos cœurs, même si nos cœurs parfois font faillite, même si nos cœurs, des fois, nous découragent. La parole de Dieu nous dit ceci, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Voyez-vous, il est le rocher de mon cœur. C'est lui qui fait la différence. C'est lui qui nous donne un cœur nouveau et qui est notre partage. « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, oui. » On peut faire faillite, oui. On peut faire des erreurs, oui. On peut pécher, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. C'est lui qui va me ramener. C'est lui qui est là pour me pardonner lorsque je viens et je lui demande pardon. Et alors, si vous pensez d'avoir des symptômes d'une crise cardiaque spirituelle, faites les tests et vous allez voir que Dieu est toujours prêt à vous secourir. Dieu est toujours prêt à nous secourir. Le test de la langue, c'est car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Jésus a dit. Le test d'être seul, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, dans la solitude. Et finalement, le test d'introspection Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Finalement, nous pouvons facilement vouloir abandonner nos efforts à cause de nos échecs. Combien de fois qu'on fait échec? Combien de fois qu'on dit, oh, je suis terrible. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis terrible. Mais n'oublions pas la centralité de l'Évangile, frères et sœurs. La centralité de notre Évangile, l'espoir que nous avons, ce verset résume la vérité de l'Évangile. C'est, si vous voulez, le verset central, la centralité de l'Évangile. Le message de l'Évangile ici est trouvé dans 2 Corinthiens 5, 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alléluia! Merci Seigneur pour la centralité de l'Évangile qui m'aide à continuer avec mon cœur imparfait, mais que Dieu nous donne un cœur nouveau. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait ici à la croix? Eh bien, Jean Calvin, le grand réformateur français de France, a dit ceci, un réformateur protestant, « Nous sommes maintenant justifiés en lui, non par nos propres œuvres, mais en connexion avec la justice de Christ que nous recevons par la foi. » Amen. L'apôtre Paul dit d'ailleurs que Christ a devenu péché pour nous. Il n'a pas devenu pécheur pour nous. Il a devenu péché pour nous. Il ne veut pas dire, Paul ne veut pas dire que Christ a devenu coupable de péché personnellement. Il n'est pas devenu coupable de péché d'une façon personnelle parce qu'il affirme dans la même phrase, dans le même verset, que Jésus n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché, il dit, a devenu péché pour nous. Alors, ça fait... Ce fait que nous lisons dans ce verset est confirmé à plusieurs endroits dans la Bible, à plusieurs endroits dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais l'apôtre Paul veut dire que Jésus a devenu péché dans un sens légal, pas dans un sens personnel, mais dans un sens légal et non dans un sens personnel. Vous comprenez? Il a pris position pour nous dans un sens, devenu péché dans un sens légal. En autre mot, Christ a été fait péché en se faisant imputer ou mettre sur son compte, mettre sur le compte de Jésus-Christ, ce fut imputé sur lui le péché de son peuple. Votre péché, mon péché, fut imputé sur lui à la croix, net sur son compte. Et ça veut dire pas d'une façon personnelle, mais d'une façon légale. Notre péché ayant été transféré à Jésus, à la croix, notre Sauveur est mort pour en payer le juste prix. Il a payé notre ce que nous méritons. Christ a payé le juste prix. Alors nous, avoir été fait justice de Dieu, parallèle à celui de Christ qui a été fait péché. Vous voyez, il a été fait péché, mais nous avons été fait la justice de Dieu. Donc, nous sommes justes par imputation. Pas à cause de qui vous êtes, mais à cause que la justice de Christ a été imputée sur vous et votre péché a été imputé à lui. Alors, il y a eu un transfert ici. Notre péché ayant été transféré à Jésus, notre Sauveur. Et alors, donc, nous sommes justes aujourd'hui par imputation. Notre péché est placée sur Christ et sa justice est placée sur vous. Alléluia! Sa justice est placée sur vous, sur notre compte, sur notre compte. Et alors, nous sommes justifiés par la foi. Voilà le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile, que c'est à propos de l'imputation de la justice de Christ sur vous et l'imputation de votre péché, de notre péché sur Jésus-Christ. Voilà le cœur de l'Évangile, la fondation de notre salut, le roc de notre sécurité, le sommet de notre joie, l'ancre de notre espérance, le baume de notre guérison et l'alliance de notre vie, le pardon de nos péchés. Jésus-Christ, il est ma justice. Alléluia. Il est ma justice. On chante de cœur des fois. Il est toute ma justice. J'ai tout pleinement en lui. Et je l'adore. Si on comprend les paroles qu'on est en train de chanter, qu'on est en train de dire, il est toute ma justice. Alléluia! Savoir qu'il est ma justice. Alléluia! Je pleure de joie. À cause de qui il est. Alléluia. Et on va prendre un temps pour prendre la Sainte Cène aujourd'hui et juste se pencher vers Dieu et le remercier pour la croix du calvaire. Mais je veux vous donner un verset aujourd'hui en terminant. Et c'est un verset qui est pour vous. Et je ne dis pas ça légèrement, parce que c'est un verset ou des versets que le Seigneur a placés sur mon cœur cette semaine pour vous, pour l'Église d'Edmonton. Et puis, je vais vous dire, dans Isaïe 43, que c'est pour vous d'une façon personnelle ce matin. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu va le faire. Et si on demande ceux qui sont responsables, s'il vous plaît, pour distribuer, ce matin on va distribuer et ensuite on va méditer sur ce verset ce matin. Dieu, je crois, veut faire quelque chose en vous ce matin. Il dit, ne pensez plus aux événements du passé. Ne pensez même plus aux bénédictions du passé. Parce que cela va surpasser ce qu'il va faire pour vous aujourd'hui. Ça va surpasser qu'est-ce qu'il a fait dans le passé pour vous. Il dit, ne pensez plus aux événements du passé. Je vais faire une nouvelle chose, une chose qui vous a jamais arrivé dans le passé. Une chose comme jamais auparavant. Cela va surpasser ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Il dit, cela est sur le point d'arriver. Le sens du verset, le sens de cette phrase qui dit que sur le point, c'est sur le point d'arriver, ça veut dire c'est comme une fleur qui s'épanouit, une fleur qui sort et qui est sur le le point d'ouvrir. Et de cette façon-là, que le Seigneur dit qu'il aura dans ta vie une belle chose, une chose glorieuse pour vous. Il dit, « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Un chemin dans le désert. Un chemin veut dire des arbres fruitiers. Un peu avant ce verset, dans le chapitre 41, je pense, il parle de ce chemin, mais il parle qu'il va planter, Dieu va planter des fruits, des arbres fruitiers, des arbres verdoyants, des arbres de cèdre, des arbres forts. Il va planter la vie en vous. Il va faire un chemin. Il va mettre un chemin dans le désert. Et dans votre désert, je veux vous dire ce matin, dans votre désert de troubles, dans votre désert de solitude, on parle de solitude, peut-être que ce matin vous vous sentez seul à cause de l'épreuve que vous avez, peut-être dans votre désert de maladie ou dans votre désert de désappointement dans votre vie. Dieu dit, il fera un chemin. Il fera un chemin pour vous ce matin. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Dieu vous donne cette promesse aujourd'hui.